Je vous souhaite de souhaiter, je vous souhaite de désirer. Le bonheur, c'est déjà vouloir. Comme en droit pénal, l'intention vaut l'action. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. C'est comme cela que commençaient les vœux de Jacques Brel en 1968 sur Europe 1, je crois. C'est un texte magnifique sur le besoin de rêve. Mais chaque fois que je le lis, je me pose la question du droit au rêve, moi. Après tout, de quoi rêve-t-on, sinon de ce qui s'inscrit dans le champ de nos possibles? On aura beau nous souhaiter de rêver, de désirer, de souhaiter, encore faut-il y penser, savoir que ça existe, que c'est une possibilité, même éloignée. Chacun ne rêve-t-il pas à sa hauteur, à la hauteur de ce que le monde lui offre? Ne faut-il pas en finir avec l'utopie de rêves communs ou partagés? Non pas parce qu'on n'y croit pas ou parce qu'on n'ose pas, mais parce que souvent, on ne sait même pas, en réalité. Alors la lutte, le combat, ne devrait-il pas être de permettre, non pas de rêver, mais de rêver plus grand que soi? Moi, je voudrais dire, je nous souhaite de souhaiter ce que nous ne souhaitons pas encore. Je nous souhaite de désirer ce qu'on ne sait pas qu'on désirera. Je nous souhaite des rêves à n'en plus finir, mais des rêves plus grands, plus hauts, plus larges que soi. Et non pas l'envie d'en réaliser quelques-uns, mais le droit.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quoi rêve encore mon invité d'aujourd'hui? Révélé il y a seulement 3 ans dans Rester Vertical d'Alain Guiraudy, il a depuis enchaîné les rôles chez Christopher Nolan, Roman Polanski, Anne Fontaine, Pierre Salvadori. La semaine prochaine, il sera à l'affiche des Misérables de Ladjly, prix du jury lors du dernier festival de Cannes, Le Quotidien dans la cité de Clichy-Montfermeil, une histoire de violence ordinaire et d'images de cinéma aussi sur fond de Victor Hugo. Bonjour Damien Bonnard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci ce matin. Bien. Avant toute chose, pourquoi est-ce qu'il faut rêver?
Parce qu'il faut rêver, c'est nécessaire pour pouvoir s'agrandir, mais en vrai, moi je crois que j'ai eu très longtemps peur de rêver grand, et j'ai plutôt rêvé petit. J'ai encore du mal à rêver grand, parce que faut plein de gens autour pour pouvoir rêver complètement.
De quoi est-ce qu'ils étaient faits, vos rêves, quand vous étiez petit?
Ils étaient faits de peu de choses, parce que j'avais tout le temps envie que ça s'agrandisse, et j'avais besoin qu'on me propose, je me rappelle à l'école, qu'on me dise que je pouvais être archéologue, que je pouvais être astronaute, que je pouvais, et tout ça c'est des choses qu'on me disait pas, et du coup j'ai essayé de les créer petit à petit, mais je les crée encore en fait.
Quand est-ce que vous avez compris que c'était possible quand même de rêver plus grand?
Quand est-ce que j'ai compris que c'était possible? Depuis que j'ai commencé ce métier en fait.
C'est le rôle du cinéma aussi, ouais. de nous montrer la possibilité d'autres vies.
C'est même le cinéma qui peut aussi nous amener à d'autres vies et d'autres pensées et des libertés, des évasions. Enfin, c'est son rôle. Enfin, c'est de s'évader, mais pour retourner dans la vie après, en ayant compris des choses.
Alors c'est passionnant, la jeunesse de Clichy-Montfermeil, celle que filme le réalisateur Ladjly, que l'on avait reçu dans cette émission, pour le court-métrage dans lequel vous jouiez déjà, Damien, et qui s'appelait aussi Les Misérables. Mmh. Quel avenir est-ce qu'elle s'imagine, cette jeunesse, tiens?
Elle s'en imagine pas beaucoup, parce que dans ce film-là, les enfants sont et leurs rêves, leurs horizons, leurs évasions possibles, elles sont bloquées par la merde des adultes autour, en fait, par tous les systèmes des adultes autour qui les enferment là-dedans, et que c'est des enfants qui veulent jouer, et en jouant, ils se retrouvent prisonniers.
Quelle jeunesse, qu'est-ce qu'elle incarne en fait, cette jeunesse? Elle incarne un visage de la France, j'ai l'impression.
Complètement. Et elle incarne un visage de tous les endroits où on abandonne des gens, tous les endroits où il y a pas grand chose qui existe, et on a les pieds pris dans le béton. Et après, ça peut être dans une banlieue, ça peut être dans une campagne, ça peut être dans n'importe où dans le monde. En vrai, là, on le situe là-bas pour ce film parce qu'on l'a tourné là-bas, et c'est l'histoire de Ladj. Mais c'est un endroit qui existe partout et qui existe dans les têtes aussi. Enfin, c'est un...
Dans le film, Damien Bonnard, vous jouez le rôle d'un policier fraîchement débarqué de Cherbourg, plein de bonnes intentions, parachuté sur un territoire dont il ne connaît rien, malmené un petit peu par ses collègues. Quand il patrouille pour la première fois dans les rues de cette cité, qu'est-ce qu'il voit? Quel monde est-ce qu'il découvre?
Alors, mon personnage, Stéphane, il vient là, il a demandé une mutation parce qu'en fait, il veut se rapprocher de son enfant dont il n'a plus la garde. Donc déjà, je me rapproche pour un enfant qui a à peu près le même âge que ceux que je vais rencontrer plus tard. Et il découvre un monde dur, et en fait il essaye de regarder les choses. Enfin, moi ce que j'essaie de faire sur le film, parce que je savais qu'on arrivait par mon regard, mais il essaie de regarder les choses et d'essayer d'aller plus loin de ce qu'on pense qu'elles sont, c'est-à-dire d'arrêter d'enfermer les gens dans ce qu'on croit qu'ils sont, dans leur fonction qu'on pense qu'elle est sienne, leur. Et c'était d'interroger le regard en se disant, est-ce que si je modifie mon regard, je modifie mon jugement et mes actes. Et donc ça veut dire réagir différemment à chaque situation, essayer de prendre en compte tout ce qui se passe, mais... Enfin, c'était tout un travail autour de ça.
C'est intéressant parce que vous parlez du regard extérieur, innocent, mais pas seulement de votre personnage, mais j'ai l'impression que vous parlez aussi de vous en tant que comédien, Damien Bonnard, comme si jouer la comédie, c'était une façon aussi d'élargir votre champ de vision.
C'est sans cesse, parce qu'en fait, moi, j'aimais pas trop l'école, parce qu'à l'école, justement, on m'a pas donné toutes les libertés, tous les rêves dont je rêvais. Et je me retrouve finalement là, avec ce métier, à retourner à l'école tous les jours, parce qu'en fait, à chaque fois que je suis sur un film, je m'attaque à son sujet, je regarde tout ce que je peux regarder, je lis, et j'apprends, et je fouille, enfin, j'étudie. Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple, sur le métier de policier? Parce que vous êtes vraiment renseigné, en l'occurrence.
Après je me suis renseigné comme j'ai pu parce que la parole des policiers, il y a un droit de réserve, il y a très peu de choses qui circulent. J'ai regardé quand même beaucoup de documentaires, j'ai lu quelques livres qui avaient été publiés par des policiers. Je les ai beaucoup observés, j'ai aussi regardé des vidéos sur les policiers. J'ai regardé des vidéos prises par des habitants aussi, enfin pour regarder dans les deux sens. Et après moi je me suis beaucoup interrogé sur la loi, mais après je me suis rappelé que les policiers c'était des gardiens de la paix, c'était des gens qui étaient là pour sauver des vies aussi dans un premier temps. Enfin j'ai essayé de regarder dans tout le prisme de la police qui est un prisme immense. Enfin,
c'est pas forcément comme ça qu'ils sont perçus, les forces de l'ordre.
Les appelle forces de l'ordre depuis, mais c'est un... Du coup, j'ai essayé de regarder ça le plus possible et tout autour de la loi, tout autour de la justice, les limites de la justice, à quel moment mes droits de policier s'arrêtent, à quel moment mes droits de citoyen débutent, toutes ces choses-là. Mais c'est des choses c'est des regards, de se regarder dans les yeux l'un et l'autre et d'essayer d'être en lien.
Ce qui fait basculer le film, l'histoire que raconte le film, Damien Bonnard, c'est une bavure policière filmée par un drone. Ces images à charge, ce cop-watching, comme on appelle cela, les policiers vont évidemment essayer de récupérer ces images. Et ça dit quelque chose quand même du pouvoir des images aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles peuvent, les images, pour vous? Elles peuvent tout.
Ouais, les images, elles peuvent tout, c'est-à-dire qu'elles peuvent nous faire grandir autant qu'elles peuvent nous détruire. Mais et là, en l'occurrence, dans ce film-là, la place des images était importante parce qu'en plus c'est ce qui s'est passé pour Ladj en vrai, puisqu'il avait filmé cet acte de violence policière et que finalement, à partir de cet objet-là, voilà, on a réussi à en faire une fiction qui parle de tout ça et qui, d'une petite vidéo, va s'élargir à un film qu'on espère partager le plus possible.
Se peut-il que les images aient la possibilité de rendre justice? Alors.
Ouais.
Qu'un film ait cette fonction-là.
Ouais. Pardon, c'est court comme réponse, mais c'est vrai.
C'est beau, surtout. Celle qui ne rend justice à personne dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture.
Ouais,
et son actualité hein, pour tous. Et tous pour elle. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 15 novembre?
Le prix Goncourt des lycéens 2019 a été attribué à... Karine Thuil pour son roman « Les choses humaines ».
Doublé gagnant après le prix Interallié, la romancière Karine Thuil a doublé la mise hier en raflant aussi le très convoité Goncourt des lycéens pour « Les choses humaines » paru chez Gallimard en août, attribué par un jury de 2000 lycéens. Le prix est devenu depuis quelques années presque aussi prescripteur que le Goncourt tout court. Les élèves ont tenu cette année à souligner la force et la finesse de l'écriture d'un roman ancré dans son époque qui traite de pouvoir, de sexe, de domination. Que du bon. Attention, ça va commencer. L'association Territoire du Cirque organise ce soir la première nuit du cirque. En 80, rendez-vous dans toute la France pour célébrer les arts de la piste, mais aussi tirer la sonnette d'alarme face aux difficultés rencontrées par la scène actuelle pour attirer l'attention et enchanter notre soirée. On pourra compter notamment sur le chorégraphe Johan Bourgeois Anthony ou la compagnie Un loup pour l'homme à Amiens. En piste.
Vous dites que vous avez un T-Rex?
Oui, nous avons un T-Rex.
Des dinos à gogo dès aujourd'hui et jusqu'au 5 janvier, le jardin d'acclimatation à Paris propose Préhistoric Safari, un parcours pour les enfants immersif et ludique pour découvrir les spécimens les plus impressionnants du Jurassique. Au programme, un T-Rex de 10 mètres de haut, des projections de films en réalité virtuelle et même une démonstration de capture de Vélociraptor. C'est trop fort, ça.
Je vis à l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée.
Youf, c'est vendredi, alors on sourit, on souffle, on trouve refuge grâce à Jean-Louis Aubert, l'ex-téléphone qui livre un double album solo délicat, apaisant, et prend son courage à deux mains avec la diva superstar Céline Dion qui fait son grand retour dans les bacs, entourée notamment de David Guetta et Sia. Et sinon, on prend une bonne dose de poison, deuxième livraison du rappeur Phénomène, Dadju. Et le comédien Damien Bonnard, invité de Boomerang ce matin. À l'affiche, Damien, la semaine prochaine des Misérables, on le disait, votre carrière, elle a démarré assez tardivement. Tout comme votre envie d'ailleurs de devenir comédien. Comment il est né, ce désir?
C'est né très bizarrement, parce qu'en fait, j'ai quitté l'école très tôt, comme je disais tout à l'heure, parce que j'avais pas l'impression qu'on m'apprenne la vie. J'avais pas l'impression. En fait, j'aurais souhaité qu'à l'école, on me dise, un corps c'est fragile, tu peux mourir facilement. Enfin, je sais pas, des choses basiques déjà. Juste qu'on m'apprenne ça.
Peut-être que dans les cours de sciences, on nous le dit différemment, mais on nous le dit.
Ouais, mais on me le dit, je trouve qu'on pourrait le dire plus vraiment, quoi. Enfin, voilà, un truc plus clair. Et puis après, c'était ces histoires de rêves auxquelles j'avais pas accès. J'avais l'impression qu'on me proposait surtout du travail dans l'usine d'à côté. Et j'ai pas de problème avec ça, mais je trouvais qu'on aurait pu agrandir tout ça et élargir les horizons. C'était pas le cas, donc je suis parti à 16 ans.
Quelle place avait le cinéma chez vous, chez vos parents, dans votre famille?
Il était présent. Moi, j'avais un petit cinéma. En fait, je travaillais pour un cinéma. J'avais dealé un truc, c'est que je déposais les programmes du cinéma sur les pare-brises des voitures. En échange, j'avais des carnets de place.
C'était où?
C'était à Tournu, ça, en Saône-et-Loire. Et du coup, j'allais au ciné comme ça avec mes petits carnets de place que j'avais gagnés en travaillant. Enfin, j'ai déposé juste les programmes un peu partout. Et voilà, il y avait des nuits de cinéma à l'époque entière. C'était la nuit entière avec une soupe à l'oignon à la fin. Ça, c'est des souvenirs comme ça. Et ça allait de La Belle et le Clochard, au Grand Bleu, à La Brute et le Truand, à Nori Nordstein, qui était un dessinateur de films d'animation. C'était assez vaste, et voilà. Et...
Alors, l'idée du cinéma, elle est toujours liée pour vous au parfum et au goût de la soupe à l'oignon, Damien?
Non, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, mais il y avait tout ça, et puis non, je n'aimais pas. Mais c'était pas. J'ai pas finalement vu tant de films. J'ai vraiment commencé à regarder des films en 2005-2006. Parce que je me suis retrouvé à Paris après avoir vagabondé un peu partout. Et je gardais la maison d'une amie. Et elle avait une DVD tech dingue de 1940 à nos jours. Et en fait, pendant deux mois, je regardais 6 à 10 films par jour. Je sortais juste acheter à manger et acheter des clopes. Et j'ai découvert le cinéma comme ça. Et après, je me suis dit, c'est là que je veux aller.
En fait, si on remonte un peu plus loin, c'est par les Beaux-Arts que vous avez commencé, Damien Bonnard, cette inscription aux Beaux-Arts de Nîmes. Qu'est-ce qui l'a motivé?
En vrai, ce qui l'a motivé, c'est que j'avais quitté l'école très tôt, je faisais rien de ma vie, mes parents m'ont dit, qu'est-ce que tu comptes rien faire du tout? Et je voulais être libre, mes parents m'ont proposé de m'émanciper en me disant, si tu veux être libre, tu peux être majeur avant l'âge et tu pourras faire ta vie. Mais par contre, si tu restes là sans rien faire, nous, ça nous intéresse pas, c'est pas comme ça qu'on a envie que tu vives. Et ils m'ont dit, réfléchis à tout ça, et si tu veux faire...
C'est quand même une phrase folle, de dire ça à un enfant.
Ouais, mais je voulais être libre, et en même temps, je voulais rendre de compte à personne. Mais, sauf qu'on vivait ensemble. Et du coup, ils m'ont dit, voilà, si tu veux être libre et tout ça, il y a cette possibilité, tu signes ce papier, et c'est bon. Et tu t'en vas, et tu fais ta vie, mais sache qu'il faudra trouver un travail, un appartement et tout ça, et de quoi te nourrir.
Alors vous l'avez fait?
Non, et sinon, ils m'ont dit, si tu décides de faire quelque chose qui compte pour toi, on sera là.
Qu'est-ce que vous avez appris?
Et on t'aidera. Ils l'ont fait.
Qu'est-ce que vous avez l'impression, peut-être, d'avoir appris au Beaux-Arts, Damien Bonnard?
Au Beaux-Arts, j'ai appris. Je crois que ça m'a. C'est surtout une ouverture sur le monde, parce que après, je les ai fait jeunes. J'ai rattrapé ce que j'avais pas eu, la philosophie, des choses comme ça. Mais j'ai surtout. J'ai appris à être moi et à commencer à savoir ce que j'avais envie de faire.
Regarder,
en tout cas, questionner
aussi.
Et à regarder, ouais.
Vous trouvez qu'on prend assez le temps de regarder, d'observer, contempler aujourd'hui?
Bah non, c'est ce qui manque à notre monde, c'est la contemplation. Parce qu'on fait que, on regarde les choses très vite ou on les regarde pas. Et en vrai, la contemplation, enfin, c'est comme ce nouvel objet là, ce téléphone, qui comble tous les moments qui étaient des moments où on pouvait contempler, réfléchir, d'attente, dans une salle d'attente, dans une voiture, dans n'importe où. C'est des moments qui sont des moments de création dans notre cerveau. Et à partir du moment où on se jette pour se remplir d'images comme ça, qu'on regarde à peine, mais où on se remplit avec, on fait disparaître toute la création et toute la réflexion.
Alors le cinéma, c'est un lieu de résistance, si je vous entends bien.
Ouais.
Le cinéma, peut-être, peut-il nous apprendre à regarder le monde aussi? Mais
il peut nous apprendre à regarder le monde, et des fois, moi, je pense que je me suis des fois inspiré du cinéma pour vivre, enfin, en imitant des choses que j'ai vues dans des films, parce que c'était presque philosophique.
Si je vous dis, par exemple, le bal des vampires de Roman Polanski, que vous citez souvent, quelles images, quelles scènes vous reviennent immédiatement à l'esprit?
Ouais, c'est un film que je regardais longtemps avec mon petit frère. Ça, c'est la scène qui me reste, c'est là, c'est la scène d'ouverture avec les loups qui attaquent le traîneau et là toute la neige et les moustaches pleines de givre et de neige.
Roman Polanski, vous avez tourné deux fois avec lui, Damien Bonnard, d'abord dans D'après une histoire vraie, il y a 2 ans, pour lequel on avait reçu la comédienne Eva Green, mais aussi dans J'accuse, le film sur l'affaire Dreyfus, où vous avez un second rôle, dont la sortie est marquée par de nouvelles accusations de viol contre le réalisateur. C'est difficile de se taire dans un contexte pareil. Et pour autant, tout le monde le fait.
Bah, après, moi, si vous m'interrogez, sur le viol, évidemment, je suis contre le viol. Et après, par contre, je suis complètement pour la liberté de parole parce que je pense on en a besoin en fait pour construire un monde plus juste et cohérent et avancé.
Ce sont des questions qu'on se pose en tant que comédien quand on accepte un film.
Bien sûr, parce qu'en plus, en tant que comédien, on avance avec la parole des autres et petit à petit, faut arriver à la lier à la sienne et à commencer à réfléchir à tout ça, à se questionner sans cesse. En fait, c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est qu'il faut se questionner et se remettre en, c'est tout le temps se bousculer, mais c'est juste de garder les yeux ouverts, de se réveiller, d'être en éveil en permanence et de l'être partout.
Et c'est difficile d'être en éveil en ce moment, parce que vous êtes quand même au cœur du truc. Vous avez 2 films, dont un de Roman Polanski. Vous avez tourné avec Adèle Haenel chez Pierre Salvadori. Vous êtes vraiment au cœur. Je suppose qu'on se pose la question tout le temps.
Ben, c'est des choses qui me questionnent énormément et il y a quelques jours au Canada, j'ai vu une exposition d'un artiste qui représentait, qui questionnait les jeux d'enfants à travers le monde. Et donc je me suis baladé dans cette exposition, et il y en a un sur lequel je me suis arrêté, qui était le jeu des chaises musicales. Et j'y ai joué, enfin, je me rappelle très bien. Et je me suis retrouvé devant cette vidéo, et j'ai bloqué devant, parce qu'en fait, j'ai compris ce que signifiait ce jeu, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu, donc, où il est question de prendre une place de pouvoir, et en la prenant, quelqu'un d'autre est laissé sur le côté, éliminé, et avec sa tristesse, sa solitude, tout ça. Et ce jeu, c'est ça, et on nous apprend à jouer à ce jeu dès l'enfance. Ça fait partie des jeux qui s'appellent les jeux à somme négative. Il y a des jeux à somme positive. Les jeux à somme négative, c'est ceux où il y a un gagnant, un perdant. Mais en fait, en vrai, il existe d'autres types de jeux, c'est les jeux à somme positive, où chacun gagne quelque chose. Et en fait, je me suis dit, si on vit comme ça, avec cette pensée-là depuis l'enfance, ben, on en est là aujourd'hui, et en vrai, c'est pas le monde que je veux.
Alors, ça implique quoi? Dans votre responsabilité, dans notre responsabilité collective.
Ça implique de se déplacer, de regarder vraiment les choses tout le temps, de les repenser, ça implique de parler, d'écouter, ça implique tout ça.
On va reparler évidemment de tout ça, d'aventure, de responsabilité collective, de regard, d'image aussi juste après. T-Rex, Children of the Revolution en 1972, France Inter, Damien Bonnard, Boomerang.
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Bah, il a, vous savez, ce qu'on appelle une gueule de cinéma, hein. À la Gabin, Blié ou Ventura, un visage qu'on n'oublie pas, de truand, de banquier, de cow-boy ou de plombier. Il suffit d'un cigare, à mon avis, d'une moustache, d'un chapeau, d'une caisse à outils. Il peut tout jouer avec son œil raton laveur, son profil caméléon, son sourire enjôleur avec son petit pull noir. Ce matin, et le casque, hein, vissé sur ses oreilles. Il a plein de livres devant lui. Le comédien Damien Bonnard, invité de Boomerang, pour son rôle dans Les Misérables de Ladj-Ly, en salle mercredi. Alors au début du film, votre personnage parle peu, il observe, il suit, il semble un petit peu passif et progressivement son corps va entrer en mouvement. C'est absolument passionnant pour l'acteur que vous êtes. Qu'est-ce que c'est un corps? Quel instrument est-ce que c'est, Damien?
Bah, là dans le film, ouais, c'était cette place, elle était étrange parce qu'elle est rare en vrai au cinéma, parce que je me retrouvais dans une place de silence mais dans lequel je pouvais me dire plein de choses parce que j'observais les autres, mes deux collègues de bac. J'observais les gens dehors, tout ça, et ça me donnait une place de réflexion, de recul, et du coup, je pouvais y mettre plein de choses. C'était très bizarre parce que j'étais assis, mais je pouvais, du coup, travailler quand même des tas de tensions. Enfin, en vrai, souvent, on est effectivement beaucoup plus en mouvement, et là, c'est la première fois, je crois que j'étais aussi statique.
Mais comment on fait pour prendre possession du corps d'un personnage, pour faire corps avec un personnage? Comment vous faites, vous?
Bah, je crois que ça passe par tout le temps qu'on passe à se plonger dans ce qu'aurait pu être sa vie avant, ce que sera sa vie après, ce qu'est sa vie pendant, et puis par les mots en fait, et en essayant de que le chemin se fasse directement après des mots jusqu'au corps.
Je vous pose la question aussi parce qu'on le disait, vous avez été étudiant aux Beaux-Arts et le corps avait une place centrale dans certaines de vos performances. À quoi ressemblaient ces performances d'ailleurs?
C'était nul.
Ah bah comment ça, c'était nul?
Non, mais c'était des trucs où je crois que j'ai essayé de me confronter aux gens. Non, mais si, il y en a une qui m'a plu, une que j'avais faite parce que j'en faisais, ou des fois je faisais des sculptures sur lesquelles j'intervenais. Mais franchement, c'était très étrange comme truc, et je crois que j'ai plus passé du temps à rougir et à avoir peur de le faire, et finalement je le faisais.
Laquelle vous plaisait?
Celle qui m'avait plu une fois, c'était une expo collective, et en fait j'avais produit aucune pièce, et j'étais passé avant le début de l'expo, et j'avais arrosé les murs délicatement, sans ça se voit, d'eau de Cologne, mais des litres entiers. Et juste avant le vernissage, je me suis moi-même arrosé de plus d'un litre d'eau de Cologne, et je suis arrivé, et ce qui m'amusait, c'était que les gens ne comprenaient pas si c'était les murs ou moi, personne ne savait ce qui sentait l'eau de Cologne. Et je me trimballais au milieu des gens comme ça, et voilà.
Damien Bonnard, est-ce que votre corps vous obéit facilement? Est-ce qu'il apprend vite?
Non, je crois qu'il apprend pas vite. Je crois que c'est moi qui apprends avec lui. Je pense que je suis complètement, comment on dit, c'est pas ambidex, mais j'ai des problèmes de connexion. mais ça se travaille, hein, c'est un muscle.
Il y a des choses dont vous sentez votre corps incapable, des choses que votre corps ne pourrait pas faire?
Non, en vrai, de plus en plus, je crois qu'il y a de plus en plus de possibles, parce que c'est ce qui est fou, c'est que ce métier, moi, quand j'ai commencé mes premiers rôles, j'arrivais sur des tournages où j'avais une phrase, c'était le plus grand vide ou la plus grande peur de ma vie, c'était impossible. Et en fait, petit à petit, je me disais, je peux pas faire ce métier, tu le désires, mais tu peux pas. Apprendre des textes, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, tu pourras pas. Et vraiment, j'ai eu très peur de tout ça. Et en fait, c'est un muscle qui, petit à petit, plus on le travaille, c'est comme l'imaginaire, en fait. Plus on se dit des choses possibles, plus les textes sont faciles à apprendre. Et voilà. Enfin,
mais des métiers, vous en avez exercé un certain nombre, constructeur, pêcheur, livreur, mais aussi assistant dans un labo au CNRS, vous avez dû apprendre des gestes, un savoir-faire, adopter certaines postures, faire vôtre certains mouvements. Est-ce qu'à l'époque, il vous est arrivé de vous sentir déjà acteur?
Ben justement, ouais, c'est parce que en fait, je crois que là où je me suis dit tiens, je vais être acteur, c'est parce qu'en fait, tous ces endroits que j'ai eu dans ma vie, c'était des endroits où ce que je me suis rendu compte après avec le recul, parce que je le voyais pas à ce moment-là, que c'était là où je découvrais des mini-mondes avec leur langage, avec leur manière de fonctionner, et c'était ça qui me passionnait. Enfin, sur les bateaux, tous les codes de pour faire les nœuds, la manière dont les mecs se parlaient,
les gestes aussi, ouais.
Les gestes et tout ça, et en fait, je me suis dit, mais c'est ça qui me passionne, en fait, c'est de pouvoir plonger dans tout ça et de découvrir des mondes et de se découvrir là-dedans.
Mais ce sens de l'aventure, il vient d'où? Il vient de vos parents?
Ouais, il doit venir de mes parents, parce que mes parents, on a quand même souvent bougé ensemble. Mes parents, ils sont toujours partis du principe qu'au lieu d'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle télé, c'était mieux de voyager. On a toujours voyagé. J'avais une télé en noir et blanc au grenier, qui était la pièce la plus froide. Ou en vrai, pour y aller, il fallait être motivé, mais On a toujours été dans cette dynamique-là. Et eux-mêmes ont toujours essayé de bouger, de créer des nouvelles choses, de se créer leur propre travail dans leur vie, d'essayer d'être tout le temps en mouvement.
Vous avez jamais peur?
Peur?
Oui.
J'ai peur, si, hyper souvent, mais en fait, mais j'aime avoir peur.
C'est vrai?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que je crois que ça me rend vivant. Alors, je suis peut-être un peu fou, mais c'est par la, en éprouvant les choses que je les vis et que je les comprends.
C'est un texte qui parle d'une chanson que vous avez choisi de nous lire ce matin, Damien Bonnard. Une chanson importante qui s'appelle Strange Fruit et qui a été popularisée par Billie Holiday.
Ouais, qui a été la première à la chanter. La personne qui l'avait écrite lui a confié. Et au départ, elle n'a pas vraiment fait attention. Enfin, c'est ce que je vais essayer de le lire là, dans le texte, que je pourrais pas lire en entier parce qu'il est trop long. Mais en fait, moi-même, cette chanson, quand je l'ai découverte, je suis un fou de musique et de jazz et tout ça. Franchement, mon anglais, il est pas incroyable aujourd'hui, mais il était encore vraiment très très mauvais à l'époque. Donc je la saisissais pas spécialement, mais elle me touchait, cette chanson. Et quand j'ai découvert ce que voulait dire ce texte et son histoire, bah voilà, c'est toujours de se dire, voilà, ça, je pensais que c'était ça, et en fait, c'est beaucoup plus.
On vous écoute.
Donc je vais lire juste la traduction des paroles,
ouais,
puisqu'on va l'écouter après,
ouais,
ça. Et puis un peu l'histoire du début de cette... Fruit étrange. Les arbres du sud portent un fruit étrange. Du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines. Des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud. Un fruit étrange suspendu au peuplier. Scène pastorale du vaillant sud. Les yeux révulsés et la bouche déformée. Le parfum des magnolias doux et printanier. Puis l'odeur soudaine de la chair qui brûle. Voici un fruit que les corbeaux picorent, que la pluie fait pousser, que le vent assèche. Pour le soleil pourrir, pour que les arbres tombent. Voici une culture étrange et amère. Strange Fruit. Billie Holiday n'a jamais été une chanteuse engagée. Au Café Society, lorsque Barnett Josephson lui présente le poème et la musique de Strange Fruit, elle ne réalise pas immédiatement la signification ni l'importance de cette chanson écrite par Abel Meeropol, un professeur de lycée, poète à 16 heures, dont le nom de plume est Lewis Allen. Elle parcourt rapidement le texte et dit à Josephson qu'elle lui donnera sa réponse plus tard. Pourtant, en regagnant sa loge quelques minutes plus tard, elle remet la partition à Francis Newton en lui lançant « Tiens, regarde ça, un type me demande de faire cette chanson, je crois qu'elle en vaut la peine, répétons. » Strange Fruit dénonce le racisme et la pratique courante du lynchage des Afro-Américains dans le sud des États-Unis. La chanson est reçue avec stupéfaction par un public habitué à un répertoire tout à fait différent. Transcendé par l'art de Billie Holiday, ce titre devient vite l'un des plus grands succès. Seul John Hammond, estimant qu'en adoptant cette chanson, Billie perd son caractère de chanteuse de jazz pour devenir une chanteuse à texte engagé, émet alors quelques réserves. Aux États-Unis, l'abolition de l'esclavage fut suivie en 1896 par la légalisation de la ségrégation raciale. Cet état de fait particulièrement odieux durera jusqu'au 4 juillet 1964. Depuis sa naissance, Billie a subi des situations de discrimination raciale que nous avons à peine à comprendre aujourd'hui. Elle vécut dans une Amérique philistine, raciste et xénophobe. Elle prit réellement conscience de son état de femme noire au Famous Door lorsqu'on lui interdit de se mêler aux musiciens et clients blancs. Dans l'orchestre de Kounbazi, on lui reprochait d'être trop blanche, dans celui d'Artichaut, d'être trop noire. Elle fut la première chanteuse afro-américaine à partir en tournée avec un orchestre de musiciens blancs. En chantant Strange Fruit dans les clubs du pays, Billie confronte soudain son public à une réalité que la plupart des gens préfèrent ignorer. Du coup, Columbia refuse d'enregistrer ce thème, le jugeant politiquement trop délicat. Milt Gabler, qui est propriétaire d'un magasin de disques sur la 52e rue, propose alors à Billie de graver Strange Fruit, à condition que Columbia donne son autorisation. Trop contente de se débarrasser du problème, la maison de disques accepte sans discuter. Le 20 avril 1939, dans les studios de Brunswick, accompagné de l'orchestre de Frank Newton, Billie immortalise Strange Fruit, Fight on Milo, Yesterday et I Got a Right to Sing the Blues. Ces titres sortent sur Commodore, un label que Gabler a lancé en 1938 dans l'arrière-boutique de son magasin de disques. Gabler fermera son magasin sur la 52e rue en 41 pour être embauché chez Decca. Il conservera néanmoins son label Commodore et ouvrira jusqu'en 1958 un nouveau magasin sur la 42e rue. Il pressera ce disque qui est devenu un des disques majeurs et qui est le titre qu'on connaît tous. Et voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui.
On va l'écouter alors. Octavien Penard, je voudrais vous remercier d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour votre parole aussi ce matin, que je trouve à la fois courageuse et salutaire. Je rappelle que Les Misérables de Ladjli, prix du jury au Festival de Cannes avec Alexis Mananti, Djibril Didier Zonga, Issa Perica, Alassane Lee, entre autres, sort mercredi. C'est du grand cinéma. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Boomerang ce matin. Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Joséphine Dumoulin, Pierre Martinerie et Jean-Baptiste Dibert. À lundi, les amis. Alors on va écouter Strange Fruit et juste après ce sera Sonia De Villa.
Merci beaucoup.
And now I'd like to sing a tune that was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Bear strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to wrap, for the tree to dry. Here is a strange and bitter cry.
Billie Holiday, Strange Fruit sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias.
Ah, mais qu'est-ce que
avec
c'était
Sonia.
Beau.
Ah bah, ça c'est sûr.
Salut Augustin.
À lundi.